prosterné devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Versets 7 et 8. Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te dise de revenir. » Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère en pleine nuit et se réfugia en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Quand Hérode se rendit compte que les savants s'étaient moqués de lui, il entra dans une grande colère. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons de 2 ans et moins, selon les indications de temps données par les savants. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et retourna au pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaos était devenu roi de la Judée à la suite d'Hérode et il eut peur de s'y rendre. Il fut averti dans un rêve et il partit pour la région de la Galilée. Il habita dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Merci pour l'affichage. Alors ce récit se trouve, bien connu, bien évidemment, se retrouve dans l'évangile de Matthieu et uniquement dans l'évangile de Matthieu. Les mages, qui ne sont pas des rois, on l'a vu à plusieurs dans la traduction, ça peut être des savants, des magiciens, des astrologues, ils sont venus d'un pays, de plusieurs pays situés à l'est. Et là, ils se rendent à Jérusalem, alors que Jésus est encore un nouveau-né, et lui se trouve à Bethléem. Ils arrivent avant le gouverneur de la Judée, le roi Hérode, et demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Imaginez-vous dans un palais qui est géré par un roi, et vous-même, par exemple, vous faites partie de ces savants et vous entrez dans ce palais et vous dites « Où est le roi ?» Qu'est-ce qu'on peut attendre comme réponse ? On va vous envoyer au roi du palais. Et le roi du palais va réagir aussi fortement à cette réaction « Où est le roi des Juifs ?» Mais vous rentrez dans son palais, il est là. Et la réaction de Hérode, vous l'avez lu, c'est « Hérode a été troublé. » Dans les sources historiques, dont le juif Flavius Joseph et encore d'autres, on voit que Hérode est décrit comme un chef qui était d'une rare violence. Et même une rare violence au regard de ce qui se faisait de cruel à son époque, de plus cruel à son époque. Il avait vraiment cette réputation. Il aurait assassiné un grand nombre des membres de sa cour et de sa propre famille pour s'assurer que son pouvoir ne tomberait pas. Il est réputé comme colérique, soupçonneux, brutal, inaccessible au moindre sentiment de pitié. Et Hérode a à son actif un nombre impressionnant de meurtres et de massacres. Il y a bien sûr les hauts faits guerriers, mais aussi d'autres meurtres, d'autres exécutions qui sont là pour montrer l'exemple aux autres. Hein, des petites peines, mais qui sont là pour, en public, allez on y va, histoire que tout le monde tienne leçon de ce qu'ils ont fait. Mais il y a surtout, car c'est le plus odieux, cette exécution automatique de ses opposants réels ou alors ceux qu'il suppose être ses opposants. Que ce soit des alliés ou des adversaires, hein, finalement. Et puis, il va même, on peut lire dans les textes historiques, dans les récits historiques, que à la fin de sa vie, il a même allé jusqu'à assassiner son épouse, son beau-frère et trois de ses fils, qui avaient autour de 40-50 ans. Vraisemblablement, il était atteint de troubles mentaux qui amplifiaient sa tendance paranoïaque, et Hérode a fait de la terreur sa manière de gouverner. Sa brutalité et son intelligence aussi lui ont permis de prendre sa place et de donner une taille et un luxe extraordinaire à son royaume et à son règne. Et c'est pour ça qu'on peut l'appeler aussi Hérode le Grand. Vous avez peut-être déjà entendu cette appellation. On lui doit en effet plusieurs constructions extraordinaires de Palestine, dont l'achèvement du temple de Jérusalem, la forteresse Antonia, mais aussi le port et la ville des villes de Césarée, de Massada, ou encore celle qu'on appelait l'Hérodion. On voit un lien avec son prénom. Et encore avec tout ce que j'ai dit, à quel prix tout cela, à quel prix toutes ces constructions, tous ces ouvrages. Quand donc il apprend bien évidemment que les mages arrivent et lui disent « Mais où est le roi des Juifs ?», on peut bien imaginer qu'il y a quelque chose en lui qui résonne très fortement. Et c'est là que le texte nous dit qu'il va les consulter discrètement. Et on va lui parler de cette fameuse prophétie où on annonce un Messie promis à Bethléem. Et puis, il les envoie en disant « Allez le trouver aussi pour lui dire que moi aussi j'aimerais l'adorer et me prosterner devant lui. » Mais nous le savons très bien, nous qui connaissons l'histoire, il ne veut surtout pas adorer ni se prosterner devant l'enfant Jésus, devant ce soi-disant nouveau roi, mais il veut le faire tuer, le faire exécuter. Alors les mages vont pouvoir faire leur quête, leur cheminement, et puis ils vont être émerveillés de cette gloire de Dieu à travers cet enfant. Ils vont changer de trajet, ils ne vont pas avertir Hérode. Et donc Hérode se sent trahi, il devient fou de rage, et il décide d'aller faire massacrer tous les enfants de moins de 2 ans autour de Bethléem, en espérant bien évidemment tomber sur le fameux enfant Messie. Alors de ce qu'on connaît d'un point de vue historique aussi, de la population du village de Bethléem, on envisage qu'il s'agirait de 20 à 30 enfants qui étaient concernés à ce moment-là. Et on peut imaginer encore plus que si Dieu n'avait pas averti Joseph en rêve, Jésus aurait été forcément de ces enfants massacrés. De nos jours, on le sait, et c'est là que je fais le lien avec tous les poèmes que j'ai lus durant ces fêtes, il y a beaucoup de réfugiés de guerre, on a nos amis ici aussi présents, qui quittent leur pays par la persécution, par l'oppression. Et on constate ici que Jésus a lui aussi été un réfugié, chassé de son propre pays. Toute cette réalité ne nous est pas inconnue. Tromperie, injustice, massacre, persécution, peur, notre monde est habité par le mal. Alors malheureusement, je sais que souvent ce genre d'épisode, puisqu'en plus il est que mentionné dans l'évangile de Matthieu, ce massacre de ses enfants, on le met de côté. Parce qu'on préfère nous concentrer sur les bons côtés de Noël. Mais vous allez voir que ce texte est d'une importance capitale, justement, pour le message de Noël. 3 petits détails. La première chose, c'est que plusieurs d'entre nous, et plusieurs de ceux que nous connaissons, vivent des drames, vivent des tragédies, vivent des épreuves, même à Noël. Et même en vivront après Noël. La deuxième chose, c'est que Matthieu va expliquer que l'événement est un accomplissement d'une prophétie de ce que j'ai lu dans Jérémie 31, qui annonce justement la consolation spirituelle et éternelle en Jésus seul. Et ce massacre de Bethléem nous révèle quoi, à travers l'attitude de Hérode, que Jésus est le roi promis, qui menace le royaume de Satan dès sa naissance. Lui, le royaume de Dieu est une menace. La question de la réalité du mal est très complexe et certains pensent que son origine viendrait peut-être de ceux qui sont les plus riches et les plus puissants de ce monde. D'autres préfèrent penser que ce sont des comportements immoraux et irresponsables de certains que le mal arrive. Je crois qu'il y a des deux, une vérité. Hérode est un roi injuste, il abuse de son pouvoir, il massacre des innocents, on pourrait le mettre dans la première catégorie de pensée. Pourtant, la Bible nous donne une toute autre réponse sur la question du mal et nous enseigne que cette source du mal dans ce monde se trouve dans le cœur de chaque homme. La réaction d'Hérode, finalement, face au Christ, est en ce sens celle que chacun de nous pourrait avoir. Jésus, en Luc 14, verset 26, pour ne citer que cet exemple-là, vient vers nous en affirmant qu'il est Dieu, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il dit, je le cite, Luc 14, 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Des paroles dures, exclusives, qui n'ont pas de concession. Et souvent, malheureusement, on a peur de ces textes parce qu'on pense qu'il faut détester sa famille, qu'il faut tout de suite quitter son conjoint, etc. Mais Jésus est en train de dire ici qu'il faut faire de lui, de ce qu'il est, notre adoration première. Et que toute autre chose, bien qu'important aussi, bien évidemment, ça doit passer en second. Jésus, en fait, affirme ici son autorité absolue. Il nous appelle à la loyauté inconditionnelle. Et forcément, je ne sais pas pour vous, mais quand Dieu vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, hein, ça coince quelque part, non ? Ou alors c'est que moi, mais en tout cas, ça n'engage que moi pour moi. Moi, j'ai une grande résistance dans mon cœur à chaque fois que Dieu me demande quelque chose. Et des fois, ça revient, je me dis, pas maintenant, Seigneur. Et la Bible est claire sur ce point-là. C'est dans notre égoïsme, dans notre auto-justification et dans notre nombrilisme que le mal trouve sa première source. Chacun voit d'abord que le monde tourne autour de sa petite vie, de ses besoins, de ses désirs. On ne veut pas servir Dieu. On ne veut pas servir les autres. On préfère être servi par les autres. L'auteur et théologien Timothée Keller déclare que dans chaque cœur se trouve un petit roi Hérode qui veut régner et qui se sent menacé par tout ce qui est susceptible de remettre en cause ses plans. Et c'est là que nous pourrons voir qu'aucun cœur ne peut capituler devant la demande de Dieu à être et devenir le souverain de sa vie sans y être aidé par Dieu lui-même. Et c'est ce que Paul nous rappelle dans Romains 3, versets 10 et 11, où il précise « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. » Pourtant, bien souvent, on se dit « Mais je cherche Dieu. Je cherche de tout mon cœur, je veux chercher Dieu. » Enfin, « je veux », c'est déjà « on ne cherche pas ». On veut. Et après vouloir, il y a le faire. Je cherche Dieu. Ou alors, regardez, il y a des millions de personnes qui cherchent Dieu. Mais si on creuse cette question-là, c'est peut-être une réalité. Est-ce que désirer trouver les bienfaits de Dieu, tels que l'amour, le pardon, le réconfort, la force ou le bonheur, ce sont tous des choses que Dieu donne, que sont des attributs de Dieu, est-ce que c'est vouloir forcément connaître Dieu pour ce qu'il est ? Beaucoup sont en recherche de ces choses et beaucoup les trouvent à moindre mesure ailleurs. Et peut-être que pour certains aussi, Dieu leur accorde directement. Mais nous voulons bien trop souvent les intérêts. Et on le voit malheureusement, lorsque ces intérêts diminuent ou que la vie n'est plus conforme à nos attentes, alors certains vont abandonner la foi. Comme si Dieu ne voulait plus répondre à leurs prières. En tout cas, c'est la croyance malheureuse qu'ils ont. On peut rechercher Dieu tel qu'on souhaite qu'il soit. Mais ce n'est pas pareil de rechercher le Dieu tel qu'il se révèle lui-même dans la Bible. Souvent, on se fait une image avec ce que nous voulons bien voir et bien accepter de Dieu. C'est pour ça qu'il est toujours important pour nous de nous remettre en question. Souvent, on peut dire que l'Église est comme une famille, c'est vrai, mais elle n'est pas que comme une famille. Elle est aussi comme un temple, elle est aussi comme un lieu saint devant Dieu, elle est aussi sans rites, sans tâches. Il y a à la fois plein de choses. Et si on reste ancré dans une des caractéristiques, et c'est là qu'on se fait finalement un Dieu à notre image. La question que l'après-Noël nous pousse à réfléchir ce matin, c'est est-ce que nous sommes conscients de cette réalité que dans nos cœurs, nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à Dieu, naturellement ? Et c'est vrai pour tous, que nous soyons croyants ou non. Alors oui, il y a une différence. Pour ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, par Jésus, nous avons été déclarés justes et nous avons la paix avec Dieu. Il nous a réconciliés avec lui. Nous sommes pardonnés. Mais il reste encore quelque chose dans notre cœur, une colère, quelque chose qui s'oppose à la volonté de Dieu tant que nous n'avons pas atteint la fin des temps où nous serons pleinement glorifiés avec Christ, avec une âme parfaite et un nouveau corps parfait. On connaît toujours ce chemin, ce combat entre nos pensées humaines et celles qui viennent de Dieu, de l'Esprit de Dieu, hein, la chair et la vie de l'Esprit. Quelques exemples. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de prier ? Si vous arrivez, si pour vous c'est facile, vous me donnez la clé. Mais c'est toujours difficile de prier. Pourquoi est-il si compliqué d'être continuellement centré sur Christ ? Pourquoi luttons-nous quotidiennement avec le péché ? Pourquoi nos cœurs nous condamnent-ils sans cesse alors qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ? Combien de fois avons-nous dit « plus jamais ça » et pourtant on a recommencé quelque temps après. Paul rappelle en Romains 7, 15, et c'est un peu le verset qui me poursuit depuis que je suis converti, « Je veux pas le bien, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Oui, il y a cette réalité qu'il demeure un petit roi Hérode en chacun de nous, et pour vaincre nos mauvaises habitudes, nous devons nous concentrer sérieusement sur notre croissance spirituelle. Et comment ? En admettant que nous avons besoin d'un sauveur. Si Jésus vient comme la lumière du monde pour nous éclairer, c'est qu'on a besoin d'être éclairé. S'il vient comme un sauveur, c'est que nous avons besoin d'un sauveur. Si on n'a pas besoin d'un sauveur, il ne nous sert à rien. Si on n'a pas besoin d'une lumière, il ne nous sert à rien. Et c'est pour ça que Hérode lui-même a besoin de ce sauveur, comme tous ceux qui étaient là dans le contexte de notre texte ce matin. Et pourtant, Hérode est troublé à l'annonce de la venue de Jésus. Hérode a peur. Hérode est anxieux de ce qui pourrait lui arriver, de ce qu'il va perdre. Et nous, est-ce que nous ne souffrons pas aussi d'anxiété face à certaines situations de la vie qui semblent être hors de notre contrôle ? Si vous cherchez des définitions dans le dictionnaire, l'anxiété est essentiellement l'émotion de peur que nous éprouvons quand nous nous sentons, alors que ce soit à tort ou à raison, peu importe, quand nous nous sentons seuls et petits devant une personne ou une situation plus grande que nous. C'est exactement ce que vit Hérode. Or, l'anxiété peut en venir à prendre beaucoup de place dans notre cœur, voire même à occuper la place de Dieu. Et l'anxiété, et on le voit dans notre société aujourd'hui, est probablement l'un de ces combats universels qui nous touche le plus et qui nous touche tous à certains moments de nos vies. Nous vivons dans un monde fragile, dans lequel il est normal à plusieurs points de vue de vivre de cette anxiété. Mais, bien évidemment, il n'est pas toujours péché de faire l'expérience de la peur. Le meilleur exemple biblique de quelqu'un qui vit la peur sans péché, c'est Jésus. Il n'a jamais commis de péché. Mais il a pourtant été si angoissé dans le jardin de Gethsémané avant sa mort qu'il en a sué des grumeaux de sang. Luc 22, verset 44 nous dit « L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » Et c'est là que je me dis que, dans un sens, la peur peut être un problème idéal. Il est sans doute vrai que la peur nous paralyse et inflige de la souffrance. Lorsqu'elle s'installe, à l'image d'Hérode, on va faire tout pour vous en débarrasser le plus vite possible ou pour faire comme si elle n'était pas là et du coup, malheureusement, prendre peut-être des décisions qui ne sont pas les bonnes pour nous et pour ceux qui nous entourent. Par sa nature même, elle va nous pousser à fuir et non à affronter ce qui nous effraie. Il peut même arriver qu'elle tienne notre vie entière sous sa domination. Et pourtant, on peut considérer que la peur est un problème idéal pour la raison suivante. C'est que Dieu réserve ses paroles les plus persuasives, les plus magnifiques et les plus réconfortantes aux gens qui sont sous l'emprise de la crainte. Alors si la peur vous est familière, mes amis, préparez-vous à entendre de bonnes nouvelles. Vous connaissez sans doute le psaume 23 qui débute par ces mots « L'Éternel est mon berger ». Ces paroles sont intemporelles et encourageantes, mais elles ne vous toucheront pas vraiment si vous n'avez pas de crainte, ou si vous n'avez pas d'inquiétude. Ça ne sert à rien. Ou alors, en Hébreux 13, 5, on voit aussi ceci, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Cette promesse rassurante est celle que Dieu fait le plus souvent. Ce sont des paroles merveilleuses. Mais là aussi, Pour avoir l'impression que Dieu me les adresse personnellement, il faut que j'aie vécu la peur et l'anxiété. Il faut que je l'admette. Ou encore, vous connaissez très bien, on pense que c'est toujours un peu vieux jeu et que c'est peut-être trop habituel, Galates 1, verset 3, que la paix, que la grâce et la paix vous soient données. Salutation commune que l'on entend dans nos églises. Ça peut sembler vieillot, ordinaire, mais si la peur et l'anxiété vous accompagnent tous les jours, elles se transforment en merveilleuses paroles. Une parole chargée d'espérance. Parce que oui, être humain, c'est avoir peur. Et c'est quelque part la première conséquence du péché d'Adam et Ève. Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et lorsque Dieu leur dit « Où es-tu ?», ils répondent « Je me suis caché parce que j'ai eu peur. » Nous sommes petits, le monde est grand. Nous formons des projets, nous concrétisons nos décisions et pensons faire bien, mais en réalité, les événements les plus banals nous échappent. Par exemple, vous gagnez assez d'argent pour ne plus être harcelé par vos créditeurs et la mort viendra frapper à votre porte. Vous enfermez soigneusement vos biens pour qu'ils soient à l'abri des voleurs et puis, malheureusement, c'est la vermine et la rouille qui vont les ronger de l'intérieur. Vous ne trouverez pas plus de consolation dans la pauvreté. Il est vrai que moins on possède de biens, moins on a à perdre et moins on a à craindre les voleurs. Mais d'un autre côté, on pourrait alors redouter de se retrouver à la rue et de ne pas avoir à manger. Vous pourriez penser qu'avoir des biens vous gardera de tout ce qui vous fait peur. Alors nous sommes des enfants de Dieu. Soit nous fuyons Dieu, soit nous cherchons en lui notre refuge. Il n'y a que ces deux possibilités. Y compris lorsque nous avons peur. Il arrive que nous nagions entre deux eaux quand nous faisons un peu confiance à Dieu et un peu confiance à nous-mêmes. Nous avons alors l'impression de ne pas fuir Dieu et en même temps de ne pas chercher aussi notre refuge en lui. Je ne sais pas si vous vivez aussi cette ambivalence. Toutefois, un examen plus approfondi de notre foi révèle que dans notre hésitation, nous avons déjà pris notre décision. Celle de nous détourner de Dieu et de placer notre confiance en nous-mêmes ou en autre chose, malheureusement. Et c'est là que nous devons nous exercer à nous tourner vers Dieu chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes inquiet, jusqu'à ce que cela devienne pour vous naturel et pour ainsi dire instinctif. Alors, il est évident, quand j'ai lu le psaume 56, qu'on pourrait se dire que David était un spécialiste. Et on le voit encore dans le psaume 23, verset 1 à 3, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon Seigneur, et mon salut, pardon, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Est-ce que cela vous semble impossible? Avoir confiance, même quand l'ennemi a déjà mis le pied dans votre maison? Pour l'instant, il suffit de savoir que la peur a un rapport direct avec la confiance, l'amour et les prophéties. Et ce qui importe le plus, c'est qu'elle vous pousse à vous tourner immédiatement vers Dieu. Est-ce que c'est ce que Hérode aurait dû faire? Vous connaissez bien que « ne crains pas » ou alors, dans d'autres traductions, « n'ayez pas peur, n'aie pas peur », c'est ce qu'on voit à plus de 300 fois, je crois que c'est même le nombre de jours dans l'année, que Dieu dit à son peuple « n'ayez pas peur, n'aie pas peur ». Alors, bien évidemment, il y a deux manières de comprendre ce commandement. La première, c'est « cesse immédiatement de t'inquiéter ». Si on le comprend comme ça, dans ce cas, il faudrait dire qu'il serait très mal de s'inquiéter. « J'ai pas le droit de m'inquiéter ». Donc on doit confesser mon péché parce que je m'inquiète ou parce que j'ai peur au Seigneur. Seigneur, j'ai peur, je ne devrais pas. Mais il y a une autre façon qui me semble la meilleure pour comprendre cette réalité, cet encouragement de n'ayez pas peur. Par exemple, lorsqu'un parent dit à son enfant « fais attention », pas toucher le four, fais attention dans les escales, etc. Alors bien évidemment, il s'agit d'un commandement en théorie. Mais aucun enfant ne le considérerait comme un commandement. Il sait très bien, ou en tout cas dans son plus grand âge, il va comprendre que quand papa ou maman diront « fais attention », ça veut dire « attention, sinon il va t'arriver quelque chose, tu vas avoir des ennuis ». Mais dans le sens « je t'aime et je veux par-dessus tout te protéger ». Jésus, dans Luc 12, 32, nous dit à nous, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Petit troupeau. Bien évidemment, ça peut être très péjoratif, on peut se sentir petit. Et en même temps, c'est une expression pleine de tendresse, pleine de miséricorde, qui nous laisse entrevoir ce qui est dans le cœur de Dieu. À la fois un appel et un encouragement du Père qui vous connaît et vous aime personnellement. Et c'est exactement ce qu'il vous faut, parce que lorsque vous avez peur, vous avez besoin de quelqu'un de plus grand et de plus fort que vous, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et c'est ce dont Hérode avait aussi besoin. Et c'est ce dont nous avons besoin. Alors la crainte et l'inquiétude sont-elles des péchés? Naissent-elles dans un cœur qui manque de confiance en Dieu? Voilà les questions qu'on pourrait se poser. Eh bien non, pas forcément. Mais si vous y regardez de plus près, vous verrez peut-être que vous placez votre confiance bien souvent en vous-même plutôt qu'en Dieu. Et dans ce cas, la meilleure recommandation que l'on puisse se faire, c'est de suivre Dieu et de confesser notre manquement de confiance à notre Père Céleste. La confession des péchés. Il n'y a rien de surprenant, c'est une activité normalement qui devrait être quotidienne lorsqu'on suit Jésus-Christ. Et on devrait être prêt à le faire en toute sérénité. Nul besoin de nous décourager. Si vous gardez les yeux fixés sur Jésus, si vous le laissez avoir le dernier mot sur votre situation, il nous dit encore une fois, je t'ai pardonné, je te pardonne et je te pardonnerai. Votre confession sera au contraire encourageante et porteuse d'espérance. Alors après Noël, que feras-tu ? Il est vrai que l'idée d'être pour toujours délivré de la peur et de l'inquiétude est très alléchante, à première vue. C'est une question qu'on peut se poser. Si cela vous arrivait, de ne plus avoir peur, de ne plus avoir jamais de crainte, est-ce que vous songeriez vraiment à vous tourner vers votre roi, ce roi tout-puissant, comme quelqu'un qui est là pour vous aider, pour vous sauver ? Vous vous ferez confiance à vous-même, et c'est là le piège qu'il faut éviter à tout prix. Nous devons viser des objectifs plus ambitieux. Le premier, c'est travailler à aiguiser notre instinct spirituel de sorte que nous nous tournions vers Jésus-Christ lorsque vous êtes inquiet. Plutôt que de nier vos problèmes ou de vous confier en vos propres capacités pour les résoudre. La deuxième chose, c'est apprendre à ce que dit Jésus. Car ses paroles, ce n'est pas de la méthode Coué, il y a le Saint-Esprit, elles sont pleines de vie et elles travaillent en profondeur dans notre âme, dans l'âme de celui qui se tourne vers lui. On ne voit peut-être pas tout de suite le résultat, mais je vous assure que si vous avez cette réalité-là dans votre cœur, Dieu travaille à travers sa parole. Et puis, être moins craintif et moins inquiet, c'est-à-dire aussi peut-être plus rempli de contentement, de voir peut-être avec reconnaissance de ce que j'ai actuellement. J'aimerais bien plus, mais qu'est-ce que j'ai devant mes yeux actuellement, en qui je peux et en quoi je peux me réjouir. Croire, enfin, que ce que Dieu vous communique dans sa parole s'appliquera à tous les combats de votre vie. Pendant que nous voulons prendre un temps de silence, la question que je vous pose, c'est en quoi, justement, aujourd'hui même, vous avez ce petit Hérode au fond de vous? Qu'est-ce que vos peurs, qu'est-ce que vos craintes vous fait souvent commettre comme attitude, que ce soit par des paroles prononcées, par des gestes, par des mauvaises pensées? Quels sont au fond de vous cela? Seul Dieu peut nous aider à lui remettre toutes ces choses. Et puis il y a cette réalité aussi que Dieu s'adresse aux mages, à ces savants qui quelque part reflètent l'idée que le message universel qui s'adresse déjà aux païens dès la naissance du Christ, ce sont, je le rappelle, des magiciens, des astrologues, ça n'a rien à voir avec des chrétiens. Et pourtant, Dieu va utiliser les astres à ce moment-là pour eux, va les rejoindre dans ceux qu'ils sont pour les amener à Jésus. Voilà l'espérance de gloire que Dieu nous offre, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, que l'on se rend compte ou que l'on ne s'en rend compte pas. Dieu, au travers des circonstances, telles qu'elles soient, nous amène toujours à Jésus.